VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Dakar, 14h à Bujumbura, bienvenue à notre journal. Burundi, une nouvelle tentative pour rassembler les protagonistes du conflit burundais. Le facilitateur tanzanien Benjamin Mkapa réunit le pouvoir burundais et l'opposition à Arusha en Tanzanie pour 3 jours à partir de jeudi. Eric Manirakiza.
Selon un diplomate africain cité par l'AFP sous anonymat, ce nouveau round devrait se pencher pour la première fois sur des questions de fond. Il s'agit du 3e mandat controversé du président Pierre Nkurunziza ou la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Le médiateur Benjamin Mkapa a dressé une liste de 33 participants, dont le gouvernement et ses alliés, des grandes figures du Sénarède, de plateformes regroupant la quasi-totalité de l'opposition burundaise intérieure et en exil, ont été également invités, ainsi que d'anciens leaders du parti au pouvoir qui ont fui le pays après s'être opposés au 3e mandat. Toutes les tentatives de mettre à la même table le pouvoir burundais et l'opposition en exil ont jusqu'à présent échoué. La tâche s'annonce encore une fois très compliquée. La présidence burundaise n'entend pas discuter avec le Sénarède, dont certains membres sont recherchés par la justice de Bujumbura. De son côté, le Sénarède, qui a récusé l'ancien président tanzanien comme facilitateur, a annoncé qu'il ne participerait pas à cette session.
La RCA toujours en proie à de violents combats. Le FPRC et l'UPC, deux factions de l'ancienne coalition Séléka, s'affrontent dans plusieurs localités du centre du pays. À Bangui, les réactions sont plutôt hostiles à l'égard de ces mouvements armés. C'est le cas du journaliste Albert Mbaya, directeur de la publication Agora. On l'écoute.
Ça ne veut rien dire. Au-delà des concepts qui sont englobés dans ces noms de partis, c'est pas de mouvements politiques ou militaires qu'on fabrique, il y a certainement d'autres raisons cachées qui motivent cette violence dont nos compatriotes sont des victimes aujourd'hui. Aujourd'hui, la RCA, c'est le ventre mou de la sous-région, et tous les bandits du continent africain pensent que c'est là qu'il faut venir s'enrichir. La preuve, Ali Daras est le patron de l'or. Nous avons des informations selon lesquelles ce bonhomme se tape 30 kg d'or par mois.
Le journaliste centrafricain Albert Mbaya, directeur de la publication Agora. En RDC, la question du rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi n'est toujours pas réglée 2 semaines après le décès de l'opposant historique à Bruxelles. Gino Rema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, a recueilli les réactions d'habitants de la capitale congolaise.
C'est un homme qui a beaucoup travaillé sur le Congo. Il faut au moins le gouvernement puisse choisir l'endroit où on doit construire le mausolée pour notre président. Deuxièmement, au niveau d'une nomination du premier ministre. L'opposition a proposé que le fils du président soit nommé en tant que premier ministre.
Le peuple est fatigué. Bon, on comprend que c'est une grande icône, une grande figure de la démocratie, mais le problème que ça prend aussi, on trimballe le corps d'une haute personnalité comme ça, c'est pas bien. Il faut qu'on trouve une solution rapide.
C'est eux qui ont des décisions à nous donner. Nous, on est la population. On n'a rien à faire pour cette affaire. Vraiment, ce qu'on demande dans notre État, dans notre gouvernement, de prendre des décisions rentables et qui va nous rassurer, nous, la population, pour être sûr que non, un jour, on va assister aux obsèques de notre défunt, quoi.
Des propos recueillis par Gino Rema de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Conflit au Soudan du Sud maintenant. Un rapport confidentiel de l'ONU avertit que la guerre dans le pays a atteint des proportions catastrophiques pour les civils et que l'emprise des milices risque de devenir incontrôlable et d'alimenter les combats pour de nombreuses années. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, écrit dans ce rapport obtenu mardi par l'AFP que les civils fuient villes et villages en nombre record et que le risque d'atrocité de masse est réel. La situation sécuritaire continue de se détériorer dans certaines régions du pays et l'impact de ce conflit et des violences a atteint des proportions catastrophiques pour les civils, s'inquiète le chef de l'ONU. Au Kenya, les 7 représentants syndicaux des médecins kenyans écroués et lundi ont été remis en liberté ce mercredi dans l'attente de leur jugement en appel. Et ils vont reprendre les négociations avec le gouvernement pour mettre fin à une grève de 10 semaines. Les syndicalistes ont fait appel ce mercredi de leur condamnation à 1 mois de prison en disant que leur libération était le seul moyen pour que les discussions salariales actuellement bloquées continuent. Le tribunal a ordonné leur remise en liberté jusqu'à la date de leur appel, le 23 février.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
La Libye célèbre dans deux jours, le 17 février, le sixième anniversaire de la révolution qui a mis fin au régime de Muammar Kadhafi. Mais le pays reste embourbé dans une interminable crise de transition, avec une insécurité record, une économie en lambeaux et des rivalités politiques majeures. La plupart des Libyens semblent peu enthousiastes pour fêter l'anniversaire de la révolution. Les autorités ont prévu un programme d'activités sportives et culturelles sur la place des Martyrs à Tripoli, la capitale. Proche-Orient, la dirigeante palestinienne Hanan Ashrawi a critiqué la position de l'administration Trump sur la solution à deux États, politique en apparente rupture avec celle des administrations américaines précédentes pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Madame Ashrawi estime que cette nouvelle politique n'a aucun sens. Mardi, un responsable de la Maison-Blanche a affirmé que les États-Unis n'insisteraient pas sur une solution à deux États entre Israël et les Palestiniens. C'est dans ce contexte que le nouveau président américain Donald Trump reçoit aujourd'hui le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington. Les premières indications de part et d'autre laissent prévoir un tête-à-tête entre deux solides alliés soucieux d'éviter toute confrontation. C'est l'opinion du journaliste Scott Bob qui a longtemps couvert l'actualité israélienne.
Les deux se sont rencontrés en septembre quand M. Trump était candidat et ils s'entendaient très bien. Depuis son élection en novembre, M. Trump a un peu modéré ses positions. Alors peut-être ça inquiète un peu les Israéliens, mais aussi ils veulent quand même renforcer les relations. M. Netanyahou, en parlant avec ses ministres la veille de son départ, a dit qu'il ne faut surtout pas faire une confrontation avec M. Trump. Ils veulent plutôt essayer de collaborer. Et il a dit à la presse avant de partir lundi soir que l'alliance entre les États-Unis et Israël est forte et elle va se renforcer avec sa visite. Donc je crois que le but, c'est vraiment de trouver des points communs et de parler des différences, mais de se comprendre de mieux en mieux.
Mais Donald Trump et son entourage n'ont-ils pas toujours manifesté un appui sans réserve pour Israël et surtout pour le Premier ministre Netanyahou?
Exactement, et ça a un peu fâché les conservateurs, les faucons au sein du gouvernement de M. Netanyahou, et son gouvernement est un gouvernement très conservateur. Il a besoin de ces gens. Alors, ce sera un pas difficile pour Netanyahou de les satisfaire, de ne pas enrager sa droite en restant amis, plus amis encore avec M. Trump.
Au risque de nous répéter, Scott Bob, qu'est-ce qui doit être fait pour que cette visite soit un succès pour les Israéliens?
Je crois qu'ils vont se pencher sur ce qu'ils sont d'accord. Et un, c'est l'Iran. Tous les deux sont d'accord qu'il faut serrer l'Iran plus. Peut-être qu'il y aura une annonce d'encore de sanctions économiques sur Téhéran. Pour les Palestiniens, M. Trump a déjà dit qu'il aimerait redémarrer le processus de la paix qui est un peu moribonde depuis plusieurs années. Et pour ça, M. Trump a déjà dit il n'y a pas longtemps que les colonies, la construction dans les colonies n'aiderait pas le processus de paix. Alors peut-être là, on va voir moins de choses.
L'appui ouvert de la Maison-Blanche, est-ce une bonne chose pour la solution à deux États?
Pas selon les Palestiniens et le monde arabe. D'ailleurs, même M. Obama se faisait critiquer en disant qu'il était trop ami d'Israël. Donc, ça a toujours été un problème.
Autre enjeu pour cette rencontre, le dossier syrien?
Oui, d'abord, tous les deux hommes sont très concernés par les renforcements de l'Iran et surtout en Syrie. On va voir, mais M. Trump n'a pas l'intention, à mon avis, de s'ingérer plus militairement, disons, avec des soldats en Syrie. Déjà, il y a des forces spéciales. Je crois qu'ils vont laisser les Israéliens peut-être travailler un peu plus. Et peut-être qu'il y aura des meilleurs échanges, disons, dans l'intelligence, les informations entre les deux gouvernements.
Vous êtes conseiller de Donald Trump. Quelle est l'erreur à ne pas commettre pendant cette visite?
Bonne question. Monsieur Netanyahou, quand il se sent menacé, il réagit violemment. C'est passé avec Monsieur Obama. Et alors, si j'étais Monsieur Trump, j'éviterais une confrontation au moins publique.
Au micro de Gaby Dorsil, c'était Scott Bob, un ancien correspondant de La Voix de l'Amérique basé à Jérusalem et actuel directeur du service francophone de la VOA. On termine par le conflit en Syrie. Les discussions sur la Syrie prévues à Astana au Kazakhstan à partir d'aujourd'hui ont été repoussées d'une journée. C'est ce qu'a annoncé le ministère kazakh des Affaires étrangères. Ces discussions impliquent la Russie, la Turquie et l'Iran. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.